Vous écoutez France Culture.
Oui, en direct de Toulouse, depuis Saint-Pierre-des-Cuisines, dernière ligne droite. Et quelle ligne droite pour ce marathon Michel Houellebecq sur France Culture, qui a commencé à 14h et s'achèvera à 19h, 5h de radio pour refaire le parcours de Michel Houellebecq à travers différentes lectures et ces deux débats que nous avons eus. Nous allons terminer par la lecture d'un texte important, sans doute ce que Michel Houellebecq considère lui-même comme ce qu'il a écrit de plus fort. La fin, la dernière partie, du moins un extrait de la dernière partie de son roman « La possibilité du Nil ». Et c'est Michel Vuillermoz qui lit.
Durant les 3 jours qui suivirent, nous traversâmes un plateau sec et blanc à la végétation anémiée. L'eau et le gibier devenaient plus rares et je décidai d'obliquer vers l'est, m'écartant du parcours de la faille. Suivant le cours du Rio Guardal, nous atteignîmes l'Imbalse de San Clemente, puis c'est avec plaisir que nous nous retrouvâmes les ombrages frais et giboyeux de la Sierra de Segura. Ma constitution biochimique me donnait, j'en prenais conscience à mesure que se poursuivait notre route, une résistance exceptionnelle, une facilité d'adaptation aux différents milieux qui n'avaient pas son équivalent dans le monde animal. Je n'avais vu jusqu'à présent aucune trace de grands prédateurs et c'est plutôt en hommage à une ancienne tradition humaine que j'allumais un feu chaque soir après avoir établi notre campement. Fox retrouvait sans difficulté les atavismes qui étaient ceux du chien depuis qu'il avait décidé d'accompagner l'homme, voici déjà de nombreux millénaires, avant de reprendre sa place auprès des néo-humains. Un froid léger descendait des sommets. Nous étions à peu près à 2000 mètres d'altitude et Fox contemplait les flammes avant de s'étendre à mes pieds alors que rougeoyaient les braises. Il ne dormirait pas, je le savais, que d'un œil prêt à se dresser à la première alerte, à tuer et à mourir s'il le fallait pour protéger son maître et son foyer. Malgré ma lecture attentive de la narration de Daniel 1, je n'avais toujours pas totalement compris ce que les hommes entendaient par l'amour. Je n'avais pas saisi l'intégralité des sens multiples, contradictoires qu'ils donnaient à ce terme. J'avais saisi la brutalité du combat sexuel, l'insoutenable douleur de l'isolement affectif, mais je ne voyais toujours pas ce qui leur avait permis d'espérer qu'ils pourraient, entre ces aspirations contraires, établir une forme de synthèse. À l'issue pourtant de ces quelques semaines de voyage dans les sierras de l'intérieur de l'Espagne, jamais je ne m'étais senti aussi près d'aimer, dans le sens le plus élevé qu'ils donnaient à ce terme. Jamais je n'avais été aussi près de ressentir personnellement ce que la vie a de meilleur, pour reprendre les mots utilisés par Daniel 1 dans son poème terminal. Et je comprenais que la nostalgie de ce sentiment ait pu précipiter Marie 23 sur les routes, si loin de là, sur l'autre rive de l'Atlantique. J'étais, à vrai dire, moi-même entraîné sur un chemin tout aussi hypothétique, mais il m'était devenu indifférent d'atteindre ma destination. Ce que je voulais, au fond, c'était continuer à cheminer avec Fox par les prairies et les montagnes, connaître encore les réveils, les bains dans une rivière glacée, les minutes passées à se sécher au soleil, les soirées ensemble autour du feu à la lumière des étoiles. J'étais parvenu à l'innocence, à un état non conflictuel et non relatif. Je n'avais plus de plan ni d'objectif et mon individualité se dissolvait dans la série indéfinie des jours. J'étais heureux. Après la Sierra de Segura, nous abordâmes la Sierra d'Alcaraz, moins élevée en altitude. J'avais renoncé à garder le décompte exact de nos jours de marche, mais c'est à peu près début août, je pense, que nous arrivâmes en vue d'Albacete. La chaleur était écrasante. Je m'étais largement écarté du parcours de la faille. Si je voulais la rejoindre, il me fallait à présent prendre plein ouest et traverser sur plus de 200 km les plateaux de la Manche où je ne trouverais ni végétation ni abri. Je pouvais aussi, en obliquant vers le nord, atteindre les zones plus boisées qui s'étendent autour de la Cuenca, puis en traversant la Catalogne, rejoindre la chaîne pyrénéenne. Jamais je n'avais eu, au cours de mon existence néo-humaine, de décision ni d'initiative à prendre, c'était un processus qui m'était totalement étranger. L'initiative individuelle, enseigne la Sœur suprême dans ses instructions pour une vie paisible, est la matrice de la volonté, de l'attachement et du désir. Aussi, les sept fondateurs, travaillant à sa suite, s'attachèrent à mettre au point une cartographie exhaustive des situations de vie envisageables. Leur objectif était naturellement, en premier lieu, d'en finir avec l'argent et avec le sexe, deux facteurs dont ils avaient pu, au travers de l'ensemble des récits de vie humains, reconnaître l'importance délétère. Il s'agissait également d'écarter toute notion de choix politique, source, comme ils l'écrivent, de passions factices mais violentes. Ces préconditions d'ordre négatif, pour indispensables qu'elles soient, n'étaient cependant pas suffisantes à leurs yeux pour permettre à la néo-humanité de rejoindre l'évidente neutralité du réel, selon leur expression fréquemment citée. Il convenait également de fournir un catalogue concret de prescriptions positives. Le comportement individuel, note-t-il dans leur prolégomène à l'édition de la Cité Centrale, le premier ouvrage néo-humain qui significativement ne comporte aucun nom d'auteur, devait devenir aussi prévisible que le fonctionnement d'un réfrigérateur. Dans la rédaction de leurs consignes, ils se reconnaissaient d'ailleurs comme principale source d'inspiration stylistique. Plus que toute autre production littéraire humaine, le mode d'emploi des appareils électroménagers de taille et de complexité moyenne, en particulier celui du magnétoscope JVC-HR-DV3S/MS. Les néo-humains, avertissent-ils d'emblée, peuvent tout comme les humains être considérés comme des mammifères rationnels de taille et de complexité moyenne. Aussi est-il loisible, au sein d'une vie stabilisée, d'établir un répertoire complet des conduites. En quittant les chemins d'une vie répertoriée, je m'étais également écarté de tout schéma applicable. Ainsi, en l'espace de quelques minutes, accroupi sur mes talons au sommet d'une butte calcaire, contemplant la plaine interminable et blanche qui s'étendait à mes pieds, je découvris les affres du choix personnel. Je réalisais également, et définitivement cette fois, que mon désir n'était pas, n'était plus, et probablement n'avait jamais été, de rejoindre une communauté de primates quelle qu'elle fût. C'est sans réelle hésitation, un peu comme sous l'effet d'une sorte de pesanteur interne, un peu comme on finit par pencher du côté le plus lourd, que je décidais d'obliquer vers le nord. Peu après la Roda, en apercevant les forêts et les premiers miroitements des eaux de l'Imbalsé d'Alarcon, alors que Fox trottait joigneusement à mes côtés, je me rendis compte que je ne rencontrerais jamais Marie 23, ni aucun autre néo-humaine, et que je n'en éprouverais aucun regret véritable. J'atteignis le village d'Alarcon peu après la tombée de la nuit. La lune se reflétait sur les eaux du lac, animée d'un frémissement léger. Alors que j'arrivais à la hauteur des premières maisons, Fox se figea sur place et gronda doucement. Je m'immobilisais. Je n'entendais aucun bruit, mais je faisais confiance à son ouïe, plus aiguisée que la mienne. Des nuages passèrent devant la lune et je distinguai un léger grattement sur ma droite. Lorsque la lumière redevint plus vive, j'aperçus une forme humaine qui me parut courbée et contrefaite se glisser entre deux maisons. Je retins Fox qui s'apprêtait à se lancer à sa poursuite et je continuai à gravir la rue principale. C'était peut-être imprudent de ma part. Mais d'après tous les témoignages de ceux qui avaient été en contact avec eux, les sauvages éprouvaient une véritable terreur des néo-humains. Leur première réaction était dans tous les cas de prendre la fuite. Le château fort d'Alarcon avait été construit au XIIe siècle, puis transformé en parador au XXe, m'a pris une pancarte touristique au caractère usé. Sa masse restait imposante, il dominait le village et devait permettre de surveiller les alentours à des kilomètres à la ronde. Je décidai de m'y installer pour la nuit, sans tenir compte des rumeurs et des silhouettes qui détalaient dans l'obscurité. Fox grondait continuellement et je finis par le prendre dans mes bras pour le calmer. J'étais de plus en plus persuadé que les sauvages éviteraient toute confrontation si je faisais suffisamment de bruit pour les avertir de mon approche. L'intérieur du château portait toutes les traces d'une occupation récente. Du feu brûlait même dans la grande cheminée. Il y avait une réserve de bois. Il n'avait du moins pas perdu ce secret, celui d'une des plus anciennes inventions humaines. Je me rendis compte, après une rapide inspection des chambres, que c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire en leur faveur. L'occupation du bâtiment par les sauvages se traduisait surtout par du désordre, de la puanteur, des tas d'excréments séchés sur le sol. Il n'y avait aucun indice d'activité mentale, intellectuelle ni artistique. Cela correspondait à la conclusion des rares chercheurs qui s'étaient penchés sur l'histoire des sauvages. En l'absence de toute transmission culturelle, l'effondrement s'était fait avec une rapidité foudroyante. Les murs épais conservaient bien la chaleur et je décidai d'installer mon campement dans la grande salle, me contentant de tirer un matelas près du feu. Dans une réserve, je découvris une pile de draps propres. Je découvris également deux carabines à répétition, ainsi qu'une réserve impressionnante de cartouches et un nécessaire complet permettant de nettoyer et de graisser les armes. La région, vallonnée et boisée, avait dû être très giboyeuse du temps des humains. J'ignorais ce qu'il en était à présent, mais mes premières semaines de marche m'avaient révélé que certaines espèces, du moins, avaient survécu à la succession de raz-de-marée et d'assèchements extrêmes, aux nuages de radiation atomique, à l'empoisonnement des cours d'eau, à toutes les catastrophes et à tous les cataclysmes enfin qui avaient ravagé la planète au cours des deux derniers millénaires. Les derniers siècles de la civilisation humaine, c'est un fait peu connu, mais significatif, avait vu l'apparition en Europe occidentale de mouvements inspirés par une idéologie d'un masochisme étrange dite écologiste, bien qu'elle n'eût que peu de rapport avec la science du même nom. Ces mouvements insistaient sur la nécessité de protéger la nature contre les agissements humains et plaidaient pour l'idée que toutes les espèces, quel que soit leur degré de développement, avaient un droit égal à l'occupation de la planète. Certains adeptes de ces mouvements semblaient même, à vrai dire, prendre systématiquement le parti des animaux contre l'homme, éprouver plus de chagrin à l'annonce de la disparition d'une espèce d'invertébrés qu'à celle d'une famine ravageant la population d'un continent. Nous avons aujourd'hui un peu de mal à comprendre ces concepts de nature et de droit qu'il manipulait avec tant de légèreté, et nous voyons simplement dans ses idéologies terminales un des indices du désir de l'humanité de se retourner contre elle-même, de mettre fin à une existence qu'elle sentait inadéquate. Les écologistes, quoi qu'il en soit, avaient largement sous-estimé la capacité d'adaptation du monde vivant, sa rapidité à reconstituer de nouveaux équilibres sur les ruines d'un monde détruit. Et mes premiers prédécesseurs néo-humains, tels Daniel III et Daniel IV, soulignent cette sensation d'ironie légère qu'ils éprouvent à voir des forêts denses, peuplées de loups et d'ours, gagner rapidement du terrain sur les anciens complexes industriels. Il est cocasse également, à l'heure où les humains ont pratiquement disparu et où leur domination passée ne se manifeste plus que par de nostalgiques vestiges, de constater la remarquable résistance des acariens et des insectes. Je passais une nuit paisible et m'éveillais peu avant l'aube. Fox sur mes talons, je fis le tour du chemin de ronde en regardant le soleil qui se levait sur les eaux du lac. Les sauvages, ayant abandonné le village, s'étaient probablement repliés sur ses rives. J'entrepris ensuite une exploration complète du château où je découvris de nombreux objets de fabrication humaine, certains en bon état de conservation. Tous ceux qui comportaient des composants étaient électroniques et des piles au lithium destinées à conserver les données pendant les coupures d'alimentation avaient été irrémédiablement détériorées par le passage des siècles. Je laissai ainsi de côté les téléphones portables, les ordinateurs, les agendas électroniques. Les appareils, par contre, qui ne comportaient que des pièces mécaniques et optiques, avaient pour la plupart très bien résisté. Je jouais quelque temps avec un appareil photo, un relais flex double objectif à la carrosserie de métal d'un noir mat. La manivelle permettant l'entraînement de la pellicule tournait sans heurts. Les lamelles de l'obturateur s'ouvraient et se refermaient avec un petit bruit soyeux à une vitesse qui variait suivant le chiffre sélectionné sur la molette de contrôle. S'il avait encore existé des pellicules photographiques, des laboratoires de développement, j'étais sûr que j'aurais pu réaliser d'excellents clichés. Alors que le soleil commençait à chauffer, à illuminer de reflets dorés la surface du lac, je méditais quelque temps sur la grâce et sur l'oubli, sur ce que l'humanité avait eu de meilleur, son ingéniosité technologique. Rien ne subsistait aujourd'hui de ces productions littéraires et artistiques dont l'humanité avait été si fière. Les thèmes qui leur avaient donné naissance avaient perdu toute pertinence, leur pouvoir d'émotion s'était évaporé. Rien ne subsistait non plus de ces systèmes philosophiques ou théologiques pour lesquels les hommes s'étaient battus, étaient morts parfois, avaient tué plus souvent encore. Tout cela n'éveillait plus chez un néo-humain le moindre écho. Nous n'y voyons plus que les divagations arbitraires d'esprits limités, confus, incapables de produire le moindre concept précis ou simplement utilisable. Les productions technologiques de l'homme, par contre, pouvaient encore inspirer le respect. C'est dans ce domaine que l'homme avait donné le meilleur de lui-même, qu'il avait exprimé sa nature profonde. Il y avait atteint d'emblée à une excellence opérationnelle à laquelle les néo-humains n'avaient rien pu ajouter de significatif. Mes propres besoins technologiques, cela dit, étaient très limités. Je me contentais d'une paire de jumelles à fort grossissement et d'un couteau à large lame que je glissais à ma ceinture. Il était possible, après tout, que je sois amené à rencontrer des animaux dangereux dans la suite de mon voyage, si tant est que je le poursuive. Dans l'après-midi, des nuages s'accumulèrent au-dessus de la plaine et la pluie commença à tomber un peu plus tard par longs rideaux lents et lourds. Les gouttes s'écrasaient dans la cour du château avec un bruit mat. Je sortis peu avant le coucher du soleil. Les chemins étaient détrempés, impraticables. Je compris alors que l'été faisait place à l'automne et je sus aussi que j'allais rester là quelques semaines, quelques mois peut-être. J'attendrai le début de l'hiver, que les journées redeviennent froides et sèches. Je pourrai chasser, tuer des cerfs ou des biches que je ferai rôtir dans la cheminée, mener cette vie simple que je connaissais par différents récits de vie humains. Fox en serait, je le savais, heureux. La mémoire en était inscrite dans ses gènes. Pour ma part, j'avais besoin de capsules de sels minéraux, mais il me restait encore 6 mois de réserve. Ensuite, il me faudrait trouver de l'eau de mer, si la mer existait encore, si je pouvais l'atteindre, ou bien je devrais mourir. Mon attachement à la vie n'était pas très élevé par rapport aux critères humains. Tout dans l'enseignement de la Sœur Suprême était orienté vers l'idée du détachement. Retrouver le monde originel. J'avais la sensation d'être une présence incongrue, facultative, au milieu d'un univers où tout était orienté vers la survie et la perpétuation de l'espèce. Tard dans la nuit, je me réveillais et distinguais un feu sur les rives du lac. Braquant mes jumelles dans cette direction, j'éprouvais un choc en découvrant les sauvages. Jamais je n'en avais vu d'aussi près. Et ils étaient différents de ceux qui peuplaient la région d'Almeria. Leur corps était plus robuste et leur peau plus claire. Le spécimen contrefait que j'avais aperçu à mon arrivée dans le village était probablement une exception. Ils étaient une trentaine, réunis autour du feu, vêtus de haillons de cuir, probablement de fabrication humaine. Je ne pus soutenir leur vue très longtemps et partis me rallonger dans l'obscurité en tremblant légèrement. Fox se blottit contre moi, me poussant l'épaule du museau jusqu'à ce que je m'apaise. Le lendemain matin, à la porte du château, je découvris une valise de plastique rigide, elle aussi de fabrication humaine. Incapables de mener à bien par eux-mêmes la production d'un objet quelconque, n'ayant développé aucune technologie, les sauvages vivaient sur les débris de l'industrie humaine et se contentaient d'utiliser les objets qu'ils trouvaient çà et là dans les ruines des anciennes habitations, ceux du moins dont ils comprenaient la fonction. J'ouvris la valise. Elle contenait des tubercules, dont je ne parvins pas à déterminer la nature, et un quartier de viande rôtie. Cela confirmait la totale ignorance que les sauvages avaient des néo-humains. Ils n'étaient apparemment même pas conscients que mon métabolisme différait du leur et que ces aliments étaient inutilisables pour moi. Fox, par contre, dévora le quartier de viande avec appétit. Cela confirmait également qu'ils éprouvaient à mon égard une grande crainte et souhaitaient se concilier ma bienveillance ou du moins ma neutralité. Le soir venu, je déposai la valise vide à l'entrée afin de montrer que j'acceptais l'offrande. La même scène se reproduisit le lendemain, puis les jours suivants. Dans la journée, j'observais à la jumelle le comportement des sauvages. Je m'étais à peu près habitué à leur aspect, à leurs traits burinés, grossiers, à leurs organes sexuels apparents. Lorsqu'ils ne chassaient pas, ils semblaient la plupart du temps dormir ou s'accoupler, ceux du moins à qui la possibilité en était offerte. La tribu était organisée selon un système hiérarchique strict qui m'apparut dès mes premières journées d'observation. Le chef était un mâle d'une quarantaine d'années aux poils grisonnants. Il était assisté par deux jeunes mâles au poitrail bien découplé, de très loin les individus les plus grands et les plus robustes du groupe. La copulation avec les femelles leur était réservée. Lorsque celles-ci rencontraient un des trois mâles dominants, elles se mettaient à quatre pattes et présentaient leur vulve. Elles repoussaient par contre avec violence les avances des autres mâles. Le chef avait dans tous les cas la préséance sur ses deux subordonnés, mais il ne semblait pas y avoir de hiérarchie claire entre ceux-ci. En l'absence du chef, il bénéficiait tour à tour et parfois simultanément des faveurs des différentes femelles. La tribu ne comportait aucun sujet âgé et 50 ans semblait être le maximum qu'ils pussent atteindre. En somme, c'était un mode d'organisation qui évoquait d'assez près les sociétés humaines, en particulier celles des dernières périodes, postérieures à la disparition des grands systèmes fédérateurs. J'étais certain que Daniel 1 n'aurait pas été dépaysé dans cet univers et qu'il y aurait facilement trouvé ses repères. Une semaine après mon arrivée, alors que j'ouvrais comme à mon habitude le portail du château, je découvris aux côtés de la valise une jeune sauvage, hirsute, à la peau très blanche, aux cheveux noirs. Elle était nue, à l'exception d'une jupette de cuir. Sa peau était grossièrement ornée de traits de peinture bleue et jaune. En me voyant approcher, elle se retourna, puis retroussa sa jupe et cambra les reins pour présenter son cul. Lorsque Fox s'approcha pour la flairer, elle se mit à trembler de tous ses membres, mais ne changea pas de position. Comme je ne bougeais toujours pas, elle finit par tourner la tête dans ma direction. Je lui fis signe de me suivre à l'intérieur du château. J'étais assez ennuyé. Si j'acceptais ce nouveau type d'offrande, elle serait probablement renouvelée les jours suivants. D'un autre côté, renvoyer la femelle aurait été l'exposer aux représailles des autres membres de la tribu. Elle était visiblement terrorisée, guettait mes réactions avec une lueur de panique dans le regard. Je connaissais les procédures de la sexualité humaine, même s'il s'agissait d'un savoir purement théorique. Je lui indiquai le matelas. Elle se mit à quatre pattes et attendit. Je lui fis signe de se retourner. Elle obéit, écartant largement les cuisses et commença à passer une main sur son trou qui était étonnamment velu. Les mécanismes du désir étaient restés à peu près les mêmes chez les néo-humains, bien qu'ils se fussent considérablement affaiblis, et je savais que certains avaient coutume de se prodiguer des excitations manuelles. J'avais pour ma part essayé une fois, plusieurs années auparavant, sans réellement parvenir à évoquer d'image mentale, essayant de concentrer mon esprit sur les sensations tactiles qui étaient restées modérées, ce qui m'avait dissuadé de renouveler l'expérience. J'ôtais cependant mon pantalon dans le but de manipuler mon organe afin de lui donner la rigidité voulue. La jeune sauvage émit un grognement de satisfaction, frotta son trou avec une énergie redoublée. En m'approchant, je fus saisi par l'odeur pestilentielle qui émanait de son entrecuisse. Depuis mon départ, j'avais perdu mes habitudes d'hygiène néo-humaine, mon odeur corporelle étant légèrement plus prononcée, mais cela n'avait rien à voir avec la puanteur qui émanait du sexe de la sauvage, mélange de relents de merde et de poissons pourris. Je reculais involontairement. Elle se redressa aussitôt, toute son inquiétude réveillée, et rampa vers moi. Arrivée à la hauteur de mon organe, elle approcha sa bouche. La puanteur était moins insoutenable, mais quand même très forte. Ses dents étaient petites, avariées, noires. Je la repoussais doucement, me rhabillais, la raccompagnais jusqu'à la porte du château en lui indiquant par signe de ne pas revenir. Le lendemain, je négligeais de prendre la valise qui avait été déposée pour moi. Il me paraissait tout compte fait préférable d'éviter de développer une trop grande familiarité avec les sauvages. Je pouvais chasser pour subvenir aux besoins de Fox. Le gibier était abondant et peu aguerri. Les sauvages, peu nombreux, n'utilisaient pas d'autres armes que l'arc et la flèche, mais deux carabines à répétition constitueraient un atout décisif. Dès le lendemain, je fis une première sortie et, à la grande joie de Fox, j'abattis deux biches qui paissaient dans les douves. À l'aide d'une courte hache, je découpai deux cuisseaux, laissant le reste du cadavre pourrir sur place. Ces bêtes n'étaient que des machines imparfaites, approximatives, d'une durée de vie faible. Elles n'avaient ni la robustesse, ni l'élégance et la perfection de fonctionnement d'un relais flex double objectif, songeai-je, en observant leurs yeux globuleux que la vie avait désertés. Il pleuvait encore, mais plus doucement. Les chemins redevenaient praticables. Lorsque le gel aurait commencé, il serait temps de repartir en direction de l'ouest. Dans les jours qui suivirent, je m'aventurai plus loin dans la forêt qui entourait le lac. Sous le couvert des arbres élevés poussait une herbe rase, illuminée çà et là de plaques de soleil. De temps en temps, j'entendais un bruissement dans un fourré plus dense où j'étais alerté par un grondement de fox. Je savais que les sauvages étaient là, que je traversais leur territoire, mais qu'ils n'oseraient pas se montrer. Les détonations devaient les terroriser. À juste titre d'ailleurs, je maîtrisais bien maintenant le fonctionnement de mes carabines. Je parvenais à recharger très rapidement et j'aurais pu en faire un carnage. Les doutes qui avaient pu occasionnellement, au cours de ma vie abstraite et solitaire, m'assaillir, avaient à présent disparu. Je savais que j'avais affaire à des êtres néfastes, malheureux et cruels. Ce n'est pas au milieu d'eux que je trouverais l'amour ou sa possibilité, ni aucun des idéaux qui avaient pu alimenter les rêveries de nos prédécesseurs humains. Ils n'étaient que le résidu caricatural des pires tendances de l'humanité ordinaire, celles que connaissait déjà Daniel 1, celles dont il avait souhaité planifier et, dans une large mesure, accompli la perte. J'en eus une nouvelle confirmation au cours d'une sorte de fête organisée quelques jours plus tard par les sauvages. C'était une nuit de pleine lune et je fus réveillé par les hurlements de fox. Le rythme des tambourins était d'une violence obsédante. Je montais au sommet de la tour centrale, ma paire de jumelles à la main. L'ensemble de la tribu était réuni dans la clairière, ils avaient allumé un grand feu et paraissaient surexcités. Le chef présidait la réunion dans ce qui ressemblait à un siège de voiture défoncé. Il portait un t-shirt Ibiza Beach et une paire de bottines montantes. Ses jambes et ses organes sexuels étaient à découvert. Sur un signe de sa part, la musique se ralentit et les membres de la tribu formèrent un cercle, délimitant une sorte d'arène au centre de laquelle les deux assistants du chef amenèrent, en les poussant et les tirant sans ménagement, deux sauvages âgés, les plus âgés de la tribu. Ils pouvaient avoir atteint la soixantaine. Ils étaient entièrement nus et armés de poignards à la lame large et courte, identiques à ceux que j'avais trouvés dans une réserve du château. Le combat se déroula d'abord dans le plus grand silence. Mais dès l'apparition du premier sang, les sauvages se mirent à pousser des cris, des sifflements, à encourager les adversaires. Je compris tout de suite qu'il s'agirait d'un combat à mort, destiné à éliminer l'individu le moins apte à la survie. Les combattants frappaient sans ménagement, essayant d'atteindre le visage ou les endroits sensibles. Après les trois premières minutes, il y eut une pause. Ils s'accroupirent aux extrémités de l'arène, s'épongeant et buvant de larges rasades d'eau. Le plus corpulent semblait en difficulté. Il avait perdu beaucoup de sang. Sur un signal du chef, le combat reprit. Le gros se releva en titubant. Sans perdre une seconde, son adversaire bondit sur lui et lui enfonça son poignard dans l'œil. Il tomba à terre, le visage aspergé de sang, et la curée commença. Le poignard levé, les mâles et les femelles de la tribu se précipitèrent en hurlant sur le blessé qui essayait de ramper hors d'atteinte. En même temps, les tambourins recommencèrent à battre. Au début, les sauvages découpaient des morceaux de chair qu'ils faisaient rôtir dans les braises, mais la frénésie augmentant, ils se mirent à dévorer directement le corps de la victime, à laper son sang dont l'odeur semblait les enivrer. Quelques minutes plus tard, le gros sauvage était réduit à l'état de résidus sanguinolents dispersés sur quelques mètres dans la prairie. La tête gisait de côté, intacte, hormis son œil crevé. Un des assistants la ramassa et la tendit au chef qui se leva et la brandit sous les étoiles. Cependant que la musique se taisait de nouveau et que les membres de la tribu entonnaient une mélopée inarticulée en frappant lentement dans leurs mains. Je supposais qu'il s'agissait d'un rite d'union, un moyen de resserrer les liens du groupe, en même temps que de se débarrasser des sujets affaiblis ou malades. Tout cela me paraissait assez conforme à ce que je pouvais connaître de l'humanité. À mon réveil, une mince couche de givre recouvrait les prairies. Je consacrai le reste de la matinée à me préparer pour ce que j'espérais être la dernière étape de mon périple. Fox me suivit de pièce en pièce en gambadant. En continuant vers l'ouest, je savais que je traverserais des régions plus plates et plus chaudes. La couverture de survie était devenue inutile. Je ne sais pas exactement pourquoi j'en étais revenu à mon projet initial d'essayer de rejoindre Lanzarote. L'idée de rencontrer une communauté néo-humaine ne m'inspirait toujours pas de réel enthousiasme. Je n'avais d'ailleurs eu aucun indice supplémentaire de l'existence d'une telle communauté. Sans doute, la perspective de vivre le reste de mon existence dans des zones infestées par les sauvages, même en compagnie de Fox, même si je savais qu'ils seraient terrorisés par moi beaucoup plus que l'inverse, qu'ils feraient tout leur possible pour se maintenir à distance respectueuse, m'était-elle, à l'issue de cette nuit, devenue intolérable ? Je me rendis compte alors que je me coupais peu à peu de toutes les possibilités. Il n'y avait peut-être pas, dans ce monde, de places qui me conviennent. J'hésitais longuement devant mes carabines à répétition. Elles étaient encombrantes et me ralentiraient dans ma marche. Je ne craignais nullement pour ma sécurité personnelle. D'un autre côté, il n'était pas certain que Fox trouve aussi facilement à se nourrir dans les régions que nous allions traverser. La tête posée sur ses pattes avant, il me suivait du regard comme s'il contemplait mes hésitations. Lorsque je me relevais en tenant la carabine la plus courte, après avoir fourré une réserve de cartouches dans mon sac, il se redressa en agitant joyeusement la queue. Il avait visiblement pris goût à la chasse, et dans une certaine mesure, moi aussi. J'éprouvais maintenant une certaine joie à tuer des animaux, à les délivrer du phénomène. Intellectuellement, je savais que j'avais tort, car la délivrance ne peut être obtenue que par l'ascèse. Sur ce point, les enseignements de la Sœur Suprême me paraissaient plus que jamais indiscutables. Mais je m'étais peut-être, dans le plus mauvais sens du terme, humanisé. Toute destruction d'une forme de vie organique, quoi qu'il en soit, était un pas en avant vers l'accomplissement de la loi morale. Demeurant dans l'espérance des futurs, je devais en même temps essayer de rejoindre mes semblables ou ceux qui pouvaient s'en rapprocher. En bouclant la fermeture de mon sac, je repensais à Marie 23, qui était partie en quête de l'amour et ne l'avait sans doute pas trouvé. Fox bondissait autour de moi, fou de joie à l'idée de reprendre la route. Je jetais un regard circulaire sur les forêts, sur la plaine, et je récitais mentalement la prière pour la délivrance des créatures. C'était la fin de la matinée, et dehors il faisait doux, presque chaud. Le gel n'avait pas tenu, nous n'étions qu'au début de l'hiver et j'allais définitivement quitter les régions froides. Pourquoi vivais-je ? Je n'avais guère d'appartenance. Avant de partir, je décidai de faire une dernière promenade autour du lac, ma carabine à la main, non pour chasser vraiment car je ne pourrais pas emporter de gibier, mais pour offrir à Fox une dernière fois la satisfaction de folâtrer dans les fourrés, de flairer les odeurs du sous-bois avant d'aborder la traversée des plaines. Le monde était là, avec ses forêts, ses prairies et ses animaux dans leur innocence, des tubes digestifs sur pattes, terminés par des dents, dont la vie se résumait à rechercher d'autres tubes digestifs afin de les dévorer et de reconstituer leurs réserves énergétiques. Plus tard dans la journée, j'avais observé le campement des sauvages. La plupart dormaient, repus d'émotions fortes après leur orgie sanglante de la veille. Ils étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Leurs prédateurs naturels étaient peu nombreux. Aussi devaient-ils procéder eux-mêmes à l'élimination des sujets vieillissants ou malades afin de préserver la bonne santé de la tribu. Ne pouvant compter que sur la concurrence naturelle, ils devaient également organiser un système social de contrôle d'accès à la vulve des femelles afin de maintenir le capital génétique de l'espèce. Tout cela était dans l'ordre des choses, et l'après-midi était d'une douceur étrange. Je m'assis au bord du lac pendant que Fox furetait dans les fourrés. Parfois, un poisson sautait hors de l'eau, déclenchant à sa surface des ondes légères qui venaient mourir sur ses bords. Je comprenais de plus en plus mal pourquoi j'avais quitté la communauté abstraite, virtuelle des néo-humains. Notre existence dépourvue de passion était celle des vieillards. Nous portions sur le monde un regard empreint d'une lucidité sans bienveillance. Le monde animal était connu, les sociétés humaines étaient connues. Tout cela ne recelait aucun mystère et rien ne pouvait en être attendu, hormis la répétition du carnage. Ceci étant, cela est, me répétais-je machinalement à de nombreuses reprises, jusqu'à atteindre un état légèrement hypnotique. Au bout d'un peu plus de 2 heures, je me relevais, apaisé peut-être, décidé en tout cas à poursuivre ma quête, ayant en même temps accepté son échec probable et le trépas qui s'ensuivrait. Je m'aperçus alors que Fox avait disparu. Il avait dû flairer une piste et s'aventurer plus loin dans les sous-bois. Je battis les buissons qui entouraient le lac pendant plus de 3 heures, appelant de temps à autre à intervalles réguliers dans un silence angoissant, cependant que la lumière commençait à baisser. Je retrouvai son corps, à la tombée de la nuit, transpercé par une flèche. Sa mort avait dû être affreuse. Ses yeux, déjà vitreux, reflétaient une expression de panique. Dans un ultime geste de cruauté, les sauvages avaient découpé ses oreilles. Ils avaient dû procéder rapidement de peur que je ne les surprenne. La découpe était grossière, du sang avait éclaboussé son museau et son poitrail. Mes jambes fléchirent sous moi, je tombais agenouillé devant le cadavre encore tiède de mon petit compagnon. Il aurait peut-être suffi que je survienne 5 ou 10 minutes plus tôt pour tenir les sauvages à distance. J'allais devoir creuser une sépulture, mais pour l'instant, je ne m'en sentais pas la force. La nuit tombait, des masses de brume froide commençaient à se former autour du lac. Je contemplais longuement, très longuement, le corps mutilé de Fox. Puis les mouches arrivèrent en petit nombre.
Merci. Merci. Merci Michel Vuillermoz pour la lecture de cet extrait de la dernière partie du quatrième roman, de Michel Houellebecq, La possibilité du Nil. Pour clore cette émission spéciale de France Culture en direct ici à Toulouse depuis Saint-Pierre-des-Cuisines. Depuis 14h, nous allons retrouver la voix de Michel Houellebecq et nous allons retrouver Fox, apparu au début de ce marathon avec Iggy Pop et qui nous a tenu compagnie pendant ces 5 heures.
Un matin d'avril, un matin pluvieux, après avoir pataugé 5 minutes dans des ornières boueuses, j'ai décidé d'abréger la promenade. En arrivant à la porte de ma résidence, je m'aperçus que Fox n'était pas là. La pluie s'était mise à tomber à verse, on n'y voyait pas à 5 mètres. J'entendais à proximité le vacarme d'une pelleteuse que je ne parvenais pas à distinguer. Je rentrai pour prendre un ciré, puis je partis à sa recherche sous une pluie battante. Je parcourus un à un tous les endroits où il aimait à s'arrêter, dont il aimait à renifler les odeurs. Je ne le retrouvais que tard dans l'après-midi. Il n'était qu'à 300 mètres de la résidence, j'avais dû passer devant plusieurs fois sans le voir. Il n'y avait que sa tête qui dépassait, légèrement tachée de sang, la langue sortie, le regard immobilisé dans un rictus d'horreur. Fouillant de mes mains dans la boue, je dégageais son corps qui avait éclaté comme un bout d'enchère, les intestins étaient sortis. Il était largement sur le bas-côté, le camion avait dû faire un écart pour l'écraser. Je retirai mon ciré pour l'envelopper et rentrer chez moi le dos courbé, le visage ruisselant de larmes, détournant les yeux pour ne pas croiser le regard des ouvriers qui s'arrêtaient sur mon passage, un sourire mauvais aux lèvres. Ma crise de larmes dura sûrement longtemps. Quand je me calmais, la nuit était presque tombée. Le chantier était désert, mais la pluie tombait toujours. Je sortis dans le jardin, dans ce qui avait été le jardin, qui était maintenant un terrain vague, poussière en été, un lac de boue en hiver. Je n'ai aucun mal à creuser une tombe au coin de la maison. Je posais dessus un de ses jouets préférés, un petit canard en plastique. La pluie provoqua une nouvelle coulée de boue qui engloutit le jouet. Je me remis aussitôt à pleurer. Un chien doté du même capital génétique. Il avait sombré dans l'anéantissement intégral vers lequel je me dirigeais à mon tour. Je savais maintenant avec certitude que j'avais connu l'amour puisque je connaissais la souffrance.
Back to the
C'était tout Houellebecq, un marathon radiophonique en direct de Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse. Prise de son Hervé Dubreuil, Clémence Bonfils, sonorisation Alexandre James, chargé de production Didier Sudre, réalisation Nathalie Salle, production Sylvain Bourmeau. Je voudrais remercier les comédiens qui se sont succédés pour lire les extraits des œuvres de Michel Houellebecq ici à Toulouse, Marianne Denicourt, Jacques Bonafé, Dominique Pinon, Michel Vuillermoz. Et je voudrais aussi remercier pour terminer les invités, les intervenants des deux tables rondes, Agathe Novak-Lechevalier, Christelle Coulot, Sandrine Trainer et Julien Gosselin. Et j'oublie Jean-Jacques Birger, le musicien Jean-Jacques Birger. Voilà, c'est fini pour ce marathon 5 heures de radio consacré à Michel Houellebecq.